Chapitre 3. Téméraire Monsieur Grotius. Ce n'est pas faire une remarque nouvelle de dire que l'héroïsme de ceux qui ne se battent jamais dépasse quelquefois celui des meilleurs combattants. Mais en tout cas, cela peut se répéter sans risque de démoraliser ceux qui doivent résister chez nous à l'invasion allemande depuis si longtemps prévue. Si la remarque est vieille, elle est vraie. Et peut-être personne ne la comprend-il mieux que les marins et les soldats qui ont couru des dangers sur terre et sur mer et qui ont ensuite découvert ainsi qu'il y a des périls plus terribles encore. Certainement, ce feldmaréchal, l'admiration de deux armées pleines de courage qui ne pouvaient approcher sa petite Xantippe de femme sans un sentiment fort voisin de la peur, viendrait, s'il vivait encore, confirmer ce que nous disons. Nous pourrions encore citer le témoignage de cet autre et non moins célèbre commandant qui, rentrant couvert de gloire après les plus terribles batailles de la campagne de Flandre, grimpait sur une chaise par un mouvement d'effroi insurmontable à la vue d'une souris. Cette histoire ne doit pas seulement contenir des traits courageux, et cependant le dévouement désintéressé d'Helena Landless a pu y faire entrer quelques éléments d'héroïsme. Quelque chose de chevaleresque a pu apparaître, sans qu'on s'y attendît, au milieu de choses plus basses et plus ordinaires. La nature a la consolante habitude de jeter ses rayons lumineux sur le plus sombre tableau. Elle compense cette habitude par une autre, celle d'atténuer les mêmes rayons, là où ils sont trop brillants. Heureusement peut-être, parmi les trois professions supérieures, deux seulement, la chair et le barreau, ont été ici représentées, à moins que M. Tartare ne figure l'élément guerrier dans la direction de l'armée navale. Mais il se trouve que M. Tartare est justement celui qui n'a aucun sacrifice à faire. Il ressemble un peu au prince charmant, arrivant après que tous les obstacles ont été surmontés par d'autres et devenant aussitôt le possesseur heureux de la divine princesse, pour l'amour de laquelle tous ont inutilement versé leur sang. Donc nous devons le laisser en dehors de nos calculs, et c'est entre la chair et le barreau que doit être disputée, dans ce récit, la palme des sacrifices héroïques. Ce n'était certainement pas une générosité ordinaire qui portait M. Crisparkle, aimant profondément Helena Landless et persuadé qu'il trouverait le plus grand bien de la vie dans la possession de cette charmante fée, à abandonner toute poursuite sans un mot qui révéla sa passion. Cependant, il ignorait qu'elle eût de son côté un attachement. Il n'était mû que par ces deux pensées, qu'il se devait à sa mère, qui lui tiendrait lieu de tous les biens les plus chers, et que peut-être il serait moins utile au service de son divin maître s'il se mariait. Mais, comme nous l'avons vu, M. Crisparkle usait d'une sage prudence pour arriver à ce renoncement difficile. Aucun devoir absolu ne le forçait à voir souvent la femme qu'il aimait jusqu'à l'adoration et la discipline de son esprit, presque parfaite comme celle de son corps, était trop exacte pour ne pas lui faire comprendre qu'il s'épargnerait beaucoup de souffrances s'il réussissait à mettre son amour au rang des souvenirs du passé. C'était là une vraie sagesse, sans nul doute, et il paraîtra toujours bon à ceux qui prononcent, en se les appliquant, les paroles « Ne nous laissez pas succomber à la tentation » de ne pas se laisser entraîner plus souvent qu'il n'est nécessaire dans la direction où cette tentation se rencontre. Voilà pour la chair. Le barreau agissait d'une façon bien différente dans la personne de M. Grotius, Esquire, de Staple Inn, dont nous avons déjà décrit l'état amoureux sans espoir et la mélancolie poignante. Hiram Grotius, vous pouvez être un imbécile, mais ne devenez pas un poltron. Travaillez à acquérir la force et même priez pour l'obtenir, afin que vous puissiez la voir courtisée et mariée, comme vous avez vu sa mère, sans réclamer ni amour ni pitié, puisque vous vous confessez à vous-même ne mériter ni l'un ni l'autre. Ainsi se parlait le vieil avocat, assis dans sa chambre solitaire, le soir de la tentative d'enlèvement. Et il se conduisit, d'après la résolution qu'il venait de former pendant les jours qui suivirent, jusqu'à une autre soirée, durant laquelle son imprudence sembla arriver à son comble. Mais son héroïsme, qui s'était développé selon la même progression, avait également atteint son point culminant et le sauva. Rosa semblait n'avoir jamais eu si souvent besoin de lui, n'avoir eu pour lui tant de commissions depuis sa visite à Cloisterham, quelques jours avant la fuite de la jeune fille. Peut-être était-ce l'effet d'un sentiment de plus vive gratitude envers son fidèle tuteur, peut-être l'état de plus en plus difficile des affaires domestiques chez la Billikin, où l'hostilité de parole avait fait place à de véritables mauvais traitements, la forçait-elle à rechercher plus souvent les conseils de celui qui, sans s'en douter, les avait plongés, elle et Mademoiselle Twinkleton, dans ce petit purgatoire. Dans tous les cas, les visites de boutons de rose aux chambres sombres, qu'elle semblait illuminer d'un rayon de soleil joyeux, étaient plus fréquentes que ne l'eût exigé son amitié envers Helena Landless. Et les petits billets qui, dans l'intervalle, appelaient M. Grudgeus à Southampton Street, étaient aussi très nombreux. Et le vieillard supportait tout cela bravement, alors qu'il aurait dû l'éviter pour le repos de son esprit. Quand le pas léger, quand le son de la voix de Rosa frappait son vieux cœur avec une violence que le mignon bouton de rose ne pouvait pas plus comprendre que lui épargner. Il s'efforçait de s'accoutumer au contact de sa petite main qu'elle lui donnait avec la même émotion tendre que si elle l'eût posée sur la tête d'un chien fidèle. Cet attouchement innocent avait le pouvoir d'agiter tout son être avec une intensité qu'on n'accorde généralement qu'aux sensations de la jeunesse, tandis que la jeunesse ne connaît pas plus cette émotion qu'elle ne connaît les cheveux gris ou la sciatique. Le vieil avocat répétait tout bas ce que le brave et désintéressé chanoine lui-même n'aurait peut-être pas eu la force de se dire en semblables circonstances. « Chaque fois que je la vois, je l'aime davantage. C'est un reste de l'amour que j'avais pour sa mère qui se rallume et réchauffe mon cœur tout exprès pour que je le lui consacre à elle. » Chaque fois que je la rencontre, je sens combien la distance qui nous sépare est infranchissable. Je sens que même si je le voulais, je ne pourrais pas la persuader de me regarder favorablement, moi, l'homme anguleux, dont elle pourrait être la fille, et que je ne le voudrais pas si je le pouvais. Quelque autre aurait le privilège de s'enfuir, moi, je ne le puis pas. Ma folie a été criminelle, il n'est que juste que j'en supporte le châtiment. » Le dénouement de tout ceci arriva comme il suit. Nous avons, quand nous sommes jeunes, et peut-être aussi quand nous sommes vieux, seulement nous manquons alors de cette délicatesse de perception qui nous fait mieux voir nos fautes après que nous les avons commises. Nous avons une faculté particulière d'accomplir des actes de cruauté positive avec les meilleures intentions du monde. Nous sommes d'ailleurs bien persuadés que nous rendons les gens heureux comme des chérubins ou des séraphins, suivant leur sexe. Rosa en donna bien la preuve en faisant entrer un jour dans sa petite caboche une envie qu'elle entendait bien à tout prix satisfaire. Un beau soir, très peu de jours après l'incident de la voiture, elle attaqua l'homme anguleux à ce sujet. « Savez-vous quelle est l'heure dans mon passé ? Il n'y a pas beaucoup de temps écoulé depuis que je suis au monde, mais enfin, assez pour que je dise mon passé. Savez-vous quelle est l'heure que je regarde comme la plus heureuse de mon insignifiante petite vie ?» La question, ainsi naïvement posée, surprit M. Grudgeus à un point tel qu'il rougit un peu. La surprise lui enlevait tout moyen de la considérer à un point de vue raisonnable. Cependant, il se jeta dans une mer de suppositions, y nageant comme il pouvait pour se tirer d'embarras. « L'heure la plus heureuse, ma chère enfant, la question est un peu embarrassante car j'ai quelques raisons de supposer que toutes les heures de votre vie ont été assez douces, je ne dis pas toutes les minutes, par exemple, celle passée... Oui, dans cette voiture où vous n'aviez pas envie d'aller. Je pense que, si vous m'aviez ouvert un champ plus large... En me demandant quel avait été le moment le plus heureux de votre vie pour tous ceux qui vous entourent, j'aurais répondu « le moment de votre naissance ». « Oh, s'il vous plaît, ne dites pas cela !» s'écria Rosa avec plus d'émotion que d'ordinaire dans la voix et sur le visage. « Je sais bien que je ne suis qu'une petite créature sans valeur et j'ai déjà causé tant de soucis à tout le monde que la proposition inverse serait plus vraie. » « Des soucis, ma chère » répéta-t-il comme un écho et de l'air d'un homme devant lequel on vient d'énoncer une proposition ébouriffante qui ne supposait pas même du domaine des choses possibles. « Oui, des soucis et bien pis encore. pensez à ce que j'ai coûté au pauvre Eddy, qui ne m'aimait pas du tout, et pensez à ce que je coûterais à quelqu'un qui m'aimerait. » L'homme anguleux retint le gémissement de son cœur. Son âge, qu'il regrettait fort, lui fit honte d'une telle faiblesse. Mais cette blessure imprévue avait été profonde. Que ne coûtait-elle pas, en effet, à quelqu'un qu'il aimait? Et ne coûtait-elle pas, jour par jour, à celui qui avait donné asile à un amour sans espérance? Véritable héros que ce vieillard peu romanesque d'ordinaire, non seulement supportant la présence de la femme qu'il aimait sans une seule pensée d'espoir, mais qui ne cherchait pas à éviter auprès d'elle d'entendre ou de répondre les choses les mieux faites pour l'éprouver le plus cruellement. Hum! Je suis un homme anguleux, comme je vous l'ai déjà dit, je pense, répliqua-t-il, et je suis garçon. Je commence même à mettre devant ce mot le qualificatif vieux, en sorte que je ne puis juger la passion avec beaucoup d'intelligence. Vraiment, ma chère, je ne me souviens pas d'avoir jamais vu une femme digne d'être aimée, en ce que je suppose être le vrai sens du mot, si ce n'est votre mère. Mais j'ajouterai que...
Ma mère, ma pauvre mère, et elle s'est noyée. Oh, pourquoi l'a-t-on laissée périr ?
S'écria Bouton de Rose, interrompant tout à coup avec un peu d'inconséquence et changeant peu heureusement d'ailleurs le courant de la conversation. Je ne puis vous le dire, n'ayant pas été présent à l'accident, mais on m'a dit qu'on avait fait tout au monde... Autre interruption, pas tout à fait aussi inconséquente que la première.
« Pourquoi M. Tartare n'était-il pas là? Il aurait sauvé ma pauvre mère. »«
M. Tartare, ma chère. » M. Grudgeus accepta cette diversion. « Naturellement, reprit-il, je ne sais pas non plus pourquoi M. Tartare ne se serait pas trouvé sur les lieux. Vous devez pourtant comprendre qu'une même personne ne peut être à la fois dans tous les endroits du monde où certaines gens peuvent se noyer. »
Il l'aurait sauvé, je le sais bien. Il a sauvé M. Crisparkle, vous vous en souvenez, et je crois qu'il est assez fort pour sauver n'importe qui et n'importe où.
Troisième interruption, suivie d'un silence soudain et d'une rougeur qu'auraient remarqué des yeux plus jeunes que ceux de M. Grudgeus. Alors la conversation sembla retourner vers son cours primitif, avec une brusquerie qui prouvait que l'autre cours était soudainement devenu dangereux ou désagréable pour Bouton de Rose.
« Mais pourquoi me faites-vous penser à tant de choses qui ne sont pas celles que je veux dire ? » s'écria-t-elle. « Vous me ferez oublier. Vous ne m'avez pas encore répondu. À quel moment ai-je été le plus heureuse dans toute ma vie ?»«
Certainement non, ma chère. Je ne vous ai pas répondu, » fit-il, « pour la très bonne raison... » Une raison, il est vrai, que les dames ne regardent pas ordinairement comme concluante, que je n'en sais rien.
Vous pourriez le savoir, dit Rosa avec une petite moue.
Vous le devriez certainement, car c'est à cause de vous que je me suis trouvée une fois très heureuse. Je vous en prie, pensez-y bien et dites-le-moi. Monsieur Grudgeus n'aurait pas pu le lui dire en ce moment, même s'il l'avait su, et que sa vie eût dépendu de ses paroles. Car la malheureuse combinaison de mots que venait de trouver la jeune fille produisait sur lui un effet qu'on peut comprendre aisément. Pendant une minute, une pensée délicieuse et folle lui traversa le cerveau, faisant monter le sang à son front et battre son triste cœur. Qu'arriverait-il si... Cette phrase mentale ne s'acheva jamais, car une voix intérieure et inexorable disait à Grudgeus « Impossible !» et une autre voix railleuse ajoutait « Vieil imbécile !» Le vieux cœur rebelle cessa de battre, la folie momentanée de Grudgeus disparut, sa gorge se dégagea et il put parler. « Réellement, ma chère demoiselle, dit-il, je suis assez stupide pour ne pas savoir à quelle époque et à quelle affaire vous faites allusion. À moins que ce ne soit à la visite que j'eus l'honneur de vous faire à la maison des nonnes pour les arrangements de ma fin de tutelle. » Cette visite et les conséquences qu'elle a entraînées ont pu avoir l'effet... Ici, quatrième interruption, avec une moue bien accentuée, quoique le charmant visage de Bouton de Rose fût tout l'opposé de l'effrayant.
Bon Dieu, quel stupide vieux tuteur vous êtes !
Ici, Bouton de Rose s'arrêta pour souligner ces mots en frappant du pied.
De quel autre moment puis-je parler ? si ce n'est du soir où je suis venue, pour la première fois, dans votre vieille chambre sombre de Lynn, là-bas, et que vous m'avez offert, oh, un si délicieux souper. Ah, ah, oui, ma chère, je comprends maintenant, dit l'avocat parlant rapidement et sentant bien que son exaltation mentale était tout à fait refroidie. Je me souviens naturellement que j'ai eu beaucoup de plaisir durant cette première visite et il me semble que je fis la remarque à cette occasion qu'une belle petite présence comme la vôtre épargnerait de grosses dépenses car elle orne, tapisse, dort, en un mot, embellit la chambre. La mienne en avait certainement besoin. Mais, Dieu me bénisse, je n'avais aucune idée que vous eussiez pu être aussi enchanté du souper. Pourquoi ne voulez-vous pas me comprendre? Ou pourquoi me taquiner ainsi si vous savez ce que je veux dire? Comme si je me souciais d'un souper. Vous ne pensez donc pas combien cela me paraîtrait agréable et gai de me sentir en sûreté, de me trouver dans un endroit où les jeunes filles n'ont pas l'habitude de souper, et de me voir assise à table en face de vous? Autre suggestion aussi périlleuse, et qui aurait peut-être produit le même effet que la première sans la crise précédente, car aucune pensée plus douce ne remplit l'esprit de l'amoureux que celle qui représente la forme chérie, assise en face de lui à la table de famille, lui donnant la fête du cœur par ses regards et ses joyeuses paroles, en même temps qu'elle réconforte son corps par des mets plus substantiels. La plume et le pinceau peuvent fournir peu de tableaux aussi attrayants pour ce qu'il y a d'affectueux dans la nature humaine que ceux de la table et du coin du feu. Mais cette nouvelle attaque de Rosa échoua devant un nouvel effort de la patiente volonté de M. Grudius qui répondit avec la même apparence de calme simplicité « Ah, je vois, et j'aurais dû comprendre au premier mot. Bien des choses, autres que celles qui vous furent apportées de l'hôtel Furnival, ont contribué à vous égayer si fort, et je n'ai pas besoin de dire que vous me rendez fier et heureux en me le rappelant. Est-ce vrai? Merci. Voilà qui va me rendre plus facile ce que j'ai tant envie de vous dire. Est-ce que j'avais réellement embelli la vieille bibliothèque et les murs et toute la chambre en riant comme un petit enfant que je suis? Prenez garde, monsieur, ne mentez pas, attention. » Et elle leva un petit index menaçant. « Car vous n'avez pas idée de ce qui vous arrivera si vous mentez. Si une seule figure de jeune fille a rendu la vieille chambre si brillante, vous la verrez donc tout en feu un de ces soirs. Car je vais vous demander de m'offrir un autre souper, comme le premier, et de me donner la permission d'y amener une personne qui vaut la peine d'être appelée une belle visiteuse. » « Dieu me bénisse, ma chère demoiselle !» s'écria l'avocat, tout surpris et la tête à l'envers, en songeant à une pareille idée, tandis qu'un sentiment de folle et imprudente joie dominait sa surprise. « Un autre souper ? Certainement. Voici déjà un point convenu. Quand aura-t-il lieu ? Disons demain soir. Vous consentez ? Parfait. Il fallait aussi fixer le jour. Et pour combien de personnes ? Car la chambre est petite aussi bien que mesquine, et il n'y aurait guère de place pour plus de 12. 12 ? Bon Dieu, mon cher tuteur, à quoi pensez-vous ? Il n'est question que d'Héléna. Elle m'a entendu parler si souvent de votre merveilleux souper, qui me paraît toujours le plus joli qu'on ait jamais servi, qu'elle a promis de venir avec moi, si vous vouliez le lui permettre, dussent vos vieux livres de droit en rougir. Héléna, mademoiselle Landless, certainement, avec le plus grand plaisir, s'écria le vieil avocat, littéralement fou de joie, oubliant les souffrances et le danger que renfermait pour lui ce joli projet, et se levant avec une vivacité surprenante pour un homme aussi anguleux. Peut-être se croyait-il obligé de courir à Steppeline à l'instant pour informer P.J.T. du double honneur qu'il allait recevoir par la présence de deux joyaux précieux et par ce repas jubilant et triomphal qui se préparait déjà sous ses auspices. Il songeait à réunir une petite armée de frotteurs pour combattre la poussière accumulée dans l'appartement vieux et sombre et le mettre en état. On ne fait pas autrement dans les châteaux où l'on attend l'arrivée d'un souverain. Il s'arrêta cependant, avant de se précipiter dans la rue pour commencer ses préparatifs, une nouvelle idée lui était venue qui porta des fruits immédiats. Maintenant que j'y pense, ma chère demoiselle, pourquoi me montrer égoïste, bien que je sois aussi heureux de jouir de votre société que de celle de Mademoiselle Landless, que de toutes celles des quartiers Saint-Gilles et Saint-Georges? Il y a place pour plus de trois, même à ma petite table, et l'hôtel Furnival est plein de bonnes choses qui se désolent de n'être pas mangées. Que diriez-vous d'un ou deux convives de plus? Le frère de Mademoiselle Héléna, par exemple. Il est très solitaire et sort bien rarement. Peut-être pourriez-vous le décider, si je n'en trouve pas le secret. Oh oui, puisque vous êtes si bon, si bon! Répondit Rosa enchantée en frappant dans ses mains. Ce qui fit supposer à Mademoiselle Twinkleton, entrant à ce moment, que la Billikin avait dû s'avancer par quelque nouvel assaut, qu'elle avait été honteusement défaite et que tout ce bruit était une démonstration de joie après la déconfiture de l'ennemi. Et en y réfléchissant, continua l'homme anguleux, il y a encore quelqu'un. Pourquoi ne serions-nous pas quatre? Cinq avec moi. Monsieur Bazard n'est pas revenu, en sorte qu'il n'y a pas besoin de le consulter. Oh, qui? Demanda la jeune fille, qui déjà ne gardait guère de doute sur la personne dont voulait parler M. Grudieuse, si l'on en jugeait par ses yeux brillants et la légère rougeur qui accompagna sa demande. « Eh bien, je veux dire, ma chère demoiselle, répondit M. Grudieuse, sentant la nécessité de s'excuser et craignant d'imposer la présence à son invité, je veux dire le jeune homme de la marine qui nage si bien et qui est si fort, ainsi que vous lui avez fait l'honneur de le remarquer tout à l'heure. Oh ! Dit Bouton de Rose avec un cri, soit de surprise, soit de satisfaction. L'avocat aurait pu se demander si c'était l'un ou l'autre de ces deux sentiments, mais il n'y songea pas. Monsieur Tartare, continua-t-il, n'est pas aussi solitaire ni aussi retiré que son jeune voisin. Vous le savez sans doute, car je crois qu'il vous a fait quelquefois visite.
Oui. « Quelquefois.
Oh, Rosa. Mais peut-être regarderait-il cette invitation comme une attention aimable et peu embarrassante, et puis, au cas où l'on voudrait faire de la musique, je crois que ces marins chantent tous, ils pourraient aussi vous accompagner, car je crois que nos jeunes amis les Landless ne sont pas musiciens. » Oui, Rosa pensait, tout bien considéré, qu'il n'y avait aucune objection à faire la présence de Neville Landless et qu'il n'y aurait pas de difficultés insurmontables pour persuader M. Tartare, quoiqu'elle ne parlât pas de ce dernier d'une façon très enthousiaste, la petite hypocrite. Et M. Grudieuse, sentant qu'on lui avait fait une grande faveur en lui permettant d'ajouter ses deux convives, manifesta, vieux nigaud à cheveux blancs, sa joie de la soirée projetée à la façon d'un enfant, on aurait dit en marmot, pour lequel des parents complaisants ont arrangé une partie. Il s'agissait de faire plaisir à Rosa, cher petit bouton de rose, la fille de sa mère, et aucune considération de paix intérieure ne pouvait prévaloir dans l'esprit du très héroïque et très peu sage avocat de Stapleton contre un désir de Mademoiselle Budd.